Et si toi aussi tu lançais ton podcast ? Hello, moi c'est Constance, je suis productrice indépendante depuis 2018 et aujourd'hui je vais être ta mentor pour créer ton propre podcast. Au quotidien, j'aide des futurs podcasteurs à se structurer, à s'organiser, à optimiser, bref, à créer le podcast qui va servir efficacement leurs objectifs. Mon but avec Pourquoi pas toi est de transmettre mes connaissances et mon expérience au service de ton projet. Dans ce podcast, je vais te raconter par exemple la fois où j'ai fait 10 000 écoutes en 20 jours, comment ne pas abandonner son podcast avant le 10e épisode, comment faire grossir une audience, comment établir une vraie stratégie de lancement, et enfin, comment dire fuck à tous les syndromes possibles qui t'empêchent de révéler ton potentiel. Si tu veux me contacter ou avoir accès à encore plus d'astuces, n'hésite surtout pas à venir me suivre sur Instagram. Je te laisse avec l'épisode du jour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ce nouvel épisode de Pourquoi pas toi. Avant de vous présenter l'épisode du jour, je vous lis un commentaire qui m'a été laissé sur Apple Podcast. Alors, ce commentaire m'a été laissé par AsmaFR qui me dit « Le podcast à suivre pour toutes les questions qu'on se pose quand on lance son podcast et le faire durer sur le long terme. Constance réussit à expliquer de façon claire et pédagogique ses suggestions de développement de podcast. Bravo !» Signé Entre deux idées sur Instagram. Eh bien, un grand merci à toi. Et puis, si jamais l'épisode du jour vous a plu, n'hésitez surtout pas à me laisser également un petit commentaire que je lirai dans le prochain épisode. Alors, aujourd'hui, j'ai eu la très grande chance d'accueillir sur le podcast Narges Barr, qui est édito rap chez Deezer France et qui est également animatrice du podcast Jour de sortie. Nous avons ensemble réfléchi au lien entre le podcast et l'industrie de la musique. Narges m'a également partagé les coulisses de son podcast sur lequel elle invite notamment des artistes comme Orelsan ou Aya Nakamura. Cette discussion est divisée en deux épisodes, donc rendez-vous dans le prochain épisode pour découvrir la suite de notre conversation. Et voilà, je vous souhaite une très belle écoute. Hello Narges, j'espère que tu vas bien. Bah, du coup, bienvenue sur Pourquoi pas toi. Avant de commencer, comment vas-tu avant de commencer cette petite discussion ?
Écoute, ça va super, merci, et toi ?
Ouais, super. Bon alors du coup, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux un petit peu nous dire qui tu es, te présenter en quelques mots ? Je pense que ça va nous intéresser.
Alors moi, c'est Narges. Je suis originaire de banlieue parisienne. Je suis basée à Paris et aujourd'hui, je suis responsable éditoriale du rap pour la plateforme de streaming Deezer, pour laquelle je réalise aussi un podcast vidéo qui s'appelle Jour de sortie, où je reçois des artistes pour parler de leur actualité à l'occasion de la sortie d'un album. Voilà.
Trop bien. Bah, ça a l'air passionnant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien faire justement un petit peu ton métier. Est-ce que tu peux nous expliquer à peu près, parce que c'est vrai que éditorap, ça fait un petit peu rêver comme ça, mais est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste exactement à peu près, à quoi ça ressemble une journée dans ta peau, un peu tips, qu'est-ce qui se cache derrière les coulisses de ce titre-là en fait ?
Alors ben, en fait, pour clarifier, on va dire que c'est de la programmation musicale, dans le sens où on crée des playlists. Après, on va dire que c'est différent de ce qu'on peut avoir en radio ou en télé musicale, dans le sens où on a une... offre éditoriale qui est beaucoup plus variée, et encore que c'est pas si différent en réalité, parce que même en radio ou en télévision, en fonction des heures, tu peux avoir des adaptations qui vont être faites avec des playlists qui vont être plus d'accompagnement, des hits à certains moments. Le soir, tu peux avoir des programmes un peu plus spécifiés. Donc finalement, c'est pas bien différent. Après, c'est vrai que je dirais aujourd'hui, la différence, c'est peut-être capacité à travailler assez vite. Quoique, même là-dessus, c'est aussi possible de répondre assez rapidement en radio ou en télé. Mais pour revenir vraiment à ce que tu me demandais, la journée d'un édito, voilà, c'est comme ça qu'on nous appelle, ou une éditrice, j'ai envie de dire ça plus, c'est écouter beaucoup de titres, il y a beaucoup de veille à faire, on regarde pas mal aussi les données qu'on peut avoir autour des sorties d'albums, quand on parle de données, ça va être tout ce qui est relatif à la performance d'un titre, mais aussi tout ce qui est environnement, communauté des artistes, comment ça répond de la part de l'audience, tout ça. C'est plein de choses qui vont faire qu'à partir de ça, on va pouvoir être en capacité de rentrer des titres dans tel ou tel type de playlist, en sachant que chaque playlist va correspondre à une audience un peu différente. Et quand on parle d'audience, on parle pas spécialement en termes de genre, même si le genre est important, mais on parle beaucoup aussi en termes de tranche d'âge et de population qui va écouter, je ne sais pas moi, pour ce qui est du rap, par exemple, qui va être à la fois sur du Ninho et du Jul ou du Naps, ou alors sur des choses peut-être plus lyricistes, fines plumes, comme, je ne sais pas, du Jazzy Bass, et puis Ben PLG ou des artistes comme Zamdan pour parler de la nouvelle scène. Donc là, j'ai cité beaucoup de noms, mais c'est parce que c'est un nom qui fait appel, en tout cas pour ce qui est de mon titre, éditrice a beaucoup de savoir et on emmagasine finalement beaucoup de choses durant les journées. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui fait que moi, généralement, en journée, je ne réponds pas au téléphone, je fais très peu de meetings et je passe mes journées à écouter des titres. Voilà, c'est ça, principalement, mon activité.
C'est plutôt cool, hein, écouter de la musique toute la journée. Bon, après, j'imagine qu'il y a la pression derrière tout ça, mais...
Non, pas forcément pression, hein, parce que c'est, on est là pour faire... le travail et que le travail il est fait. Après ça peut être vu comme étant un travail cool, il l'est, mais c'est quand même des jobs qui nécessitent aussi d'avoir un côté très geek, de faire des tableaux Excel, de rentrer dans des process, de suivre plein de guidelines qui sont assez importantes et qui détermine quand même pas mal la façon dont on travaille.
C'est super intéressant. Et justement, tu vois, quand je t'écoutais, je me suis demandé, mais comment on fait pour être au courant de tout ce qui sort? Parce qu'aujourd'hui, avec forcément Internet, tout ça, il n'y a pas un ou deux canaux pour quand une musique sort. Il y en a 15 000 différents. Surtout avec TikTok, tu vois, c'est bête. Mais comment on fait pour suivre tout ça et pour être au courant un peu de tout? Parce que j'imagine que ça fait partie de ton
du travail,
job, quoi.
Ouais. Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que nous, on est pitché par les majors et les distributeurs notamment. Donc ça, c'est un gros pan de ce qui peut arriver à nous, dans le sens où tu vas avoir chaque semaine les différents de grosses maisons et les différents distributeurs, qu'ils soient gros ou petits, qui vont nous envoyer leurs actualités, leurs sorties, et ça va d'une certaine façon quand même donner le plus gros de ce qui va arriver sur le genre musical. Après, effectivement, il y a d'autres façons de pitcher, c'est comme ça qu'on dit. La première, qui est la plus simple pour les artistes et les managers, mais qui n'est pas la plus simple pour nous, c'est de glisser dans nos DM, de récupérer nos mails, de nous envoyer des messages sur LinkedIn, etc. Alors, j'aurais envie de dire aux gens peut-être qui vont nous écouter que passer par LinkedIn pour me pitcher de la musique, c'est pas l'outil le plus efficace, dans le sens où j'ai rien contre LinkedIn, hein, c'est un outil hyper important dans le cadre du B2B, mais c'est vrai que l'interface n'est pas forcément adaptée à ça. Alors, il y a une adresse mail à laquelle on peut nous envoyer des titres pour ceux qui ne sont pas forcément identifiés. Et pour ce qui est des autres indépendants, c'est vrai que c'est un peu tout plein de choses qui font que ça peut arriver jusqu'à nous. Donc encore une fois, les mails qui arrivent de part et d'autre, les messages, et puis après il y a aussi tout un travail de veille. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une notion assez importante par rapport à ce que je fais aujourd'hui et à ce qu'on fait en tant qu'éditeur ou éditrice, c'est que c'est un temps en fait dans le développement d'un artiste, et c'est pour ça que parfois j'encourage vivement les producteurs ou les artistes à attendre de se développer un peu plus et venir à nous plus tard pour pouvoir prétendre entrer en playlist. Dans le sens où aujourd'hui, avec les plateformes de streaming et le développement qu'on connaît, il y a une démocratisation de l'accès à ces outils. Et c'est génial parce que là où à une époque, il n'y avait pas forcément de la place partout pour des CD de titres ou des albums, aujourd'hui, tout est disponible en streaming. Dans le sens où il suffit de passer par un agrégateur quand on n'a pas signé en distribution ou autre, et on peut mettre à disposition sa musique. Donc ça veut dire que la musique est libre et les artistes peuvent le faire par eux-mêmes. Après, pour ce qui est du playlisting, c'est de la curation. Et la curation, la réalité, c'est qu'on peut prétendre à arriver dans ce niveau, en tout cas du produit, pour parler d'un point de vue technique, parce que c'est vrai que les playlists sont mises en avant sur la homepage de Deezer, on accède à cette curation à partir du moment où il y a un environnement. Et quand on parle d'environnement, pour un artiste, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la superstar qui fait des millions de streams et qui a bon nombre de certifications. Ça veut tout simplement dire qu'il y a une communauté qui est fédérée autour de cet artiste, une attente de la part d'une audience, et que du coup, nous, quand on va faire du playlisting, même sur un artiste en développement, on va se rendre compte que ça répond aux attentes de nos utilisateurs. Parce que c'est ça, en fait, notre travail en premier lieu. C'est bien entendu d'avoir une expertise sur nos genres, mais c'est aussi de répondre au mieux à ce que les gens qui écoutent des playlists de rap, par exemple, elle soit, tu vois, en fait, soit l'endroit idéal pour elle et que ce soit cohérent.
Ah, mais c'est super intéressant. Et donc, en fait, si je comprends bien, ce que tu conseilles, entre guillemets, à un artiste qui veut apparaître dans vos playlists, c'est au lieu de se concentrer sur t'envoyer un mail sur LinkedIn, plutôt se concentrer sur la création d'une communauté sur les réseaux, par exemple.
C'est ça, c'est exactement ça. Et que ce soit, je dis LinkedIn, hein, mais c'est juste que il y a des outils qui sont peut-être plus, j'ai envie de dire, propices au partage, tu vois, de stories, etc. Mais en soi, globalement, que ce soit LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook ou les mails, je dis pas qu'il faut pas essayer, mais il y a une perdition, en fait, de l'information, parce que dans un premier temps, c'est déjà difficile, en fait, de pouvoir tout ouvrir et malheureusement de tout regarder, même si on aimerait bien. Et c'est aussi parce que je pense qu'il y a un temps pour tout et que parfois, il faut pas se presser sur le playlisting, parce qu'on suit aussi ce qui va être trending et ce qui va être cherché par l'audience, en fait, dans le produit. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a plein de façons de détecter des nouveaux talents. Et tu parlais notamment de TikTok. C'est vrai que TikTok, ça donne aussi des tendances. TikTok, ça a permis à beaucoup d'artistes d'émerger. Ça a aussi permis à beaucoup de titres de back catalogue de revenir sur le devant de la scène, ou même à des titres venus d'Afrique, d'Inde.
Des musiques même, des années 80.
C'est ça. Il y a plein de choses qui remontent. Quand on parle de back catalogue, justement, c'est les années 80, ça peut être 90. En fait, c'est tout ce qu'on considère comme n'étant plus actuel. Et c'est aussi parce qu'on travaille sur les plateformes de streaming, aussi beaucoup sur le back catalogue, et c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire que les gens pensent beaucoup nouveauté, actualité, mais la réalité, c'est que la nouveauté, ça va être peut-être une partie de notre playlisting, mais le plus gros, c'est beaucoup de back catalogue. Donc on va travailler sur ce qui est déjà sorti, ce qui veut dire que sur un genre comme le rap, qui aujourd'hui existe pour la France depuis vraiment fin des années 80, début des années 90, on commence à avoir une discographie assez conséquente et une façon de pouvoir travailler le rap assez importante. Donc il y a ce truc assez intéressant, et encore une fois, pour revenir à ce que tu disais, parce que je me suis un peu égarée, effectivement, parfois il vaut mieux prendre le temps de développer sa communauté pour pouvoir maximiser l'intérêt d'être en playlist. Mais je pense que ça, c'est globalement un schéma de réflexion qui est propre à bon nombre d'acteurs aujourd'hui qui utilisent les réseaux sociaux et qui bâtissent des communautés.
Ah, mais c'est super intéressant. évidemment, on pourrait parler juste de la musique pendant des heures. Mais moi, ce qui m'intéresse un petit peu aujourd'hui, forcément, c'est ton podcast, notamment un petit peu. Donc, on en a parlé un tout petit peu au début, ton podcast qui s'appelle Jour de sortie. J'aimerais bien écouter tout, mais j'ai pas encore eu le temps de tout écouter. Et d'ailleurs, tu parlais à un moment de Jazzy Baz, et c'est suite à l'écoute de l'épisode que je suis allée écouter l'album de Jazzy Baz, tu vois, et franchement, j'ai adoré. Donc,
voilà. Très cool.
Voilà, c'est ça. Bon. Donc là, on a bien compris le système, tu sais, un petit peu marketing, entre guillemets, qui fonctionne vraiment super bien, tu vois.
En fait, c'est pas forcément un système marketing, c'est plus une réflexion qu'il faut avoir dans le sens où nous, quand on fait des playlists, c'est un travail éditorial. Et le podcast, qui est une création originale chez Deezer pour ce qui est du jour de sortie, mais on a d'autres créations originales, en fait, ça vient aussi travailler l'éditorial chez nous d'une façon à peu près similaire, donc tout est en synergie. Mmh. Et c'est vrai que je dirais plus que stratégie marketing, en fait l'ambition de jour de sortie aujourd'hui, c'est d'accompagner une sortie réellement. Ça veut dire que ça doit être une émission que tu vas écouter juste un petit peu avant la sortie, donc à 2-3 jours de la sortie ou le jour de la sortie, et te dire ah tiens, je vais aller écouter l'album, ou alors ah tiens, j'ai déjà écouté l'album et je comprends mieux ce que l'artiste dit. D'où l'intérêt en fait de faire une conversation qui est vraiment axée autour du track listing d'un album. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de chaque morceau, du processus créatif, et que ça peut aller jusqu'à qui a fait le mix ou le mastering. Bon, c'est des trucs un peu techniques, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le public, et les gens qui sont passionnés par un sujet, ils aiment bien tout savoir en fait.
C'est ça, et je suis la première à vraiment valider ça. D'ailleurs, pour la petite anecdote, entre très gros guillemets, avant de faire du podcast, donc c'était en 2018, j'ai commencé par être animatrice dans une émission de rap. Donc forcément, ça me parlait totalement comme émission, tu vois. Et t'as un petit peu devancé la question que je voulais te poser. Parce qu'évidemment, je voulais te demander, quelle était l'optique. Est-ce que c'est toi déjà qui as eu l'idée de jour de sortie? Et si oui, quelle était un peu l'optique derrière? Est-ce que vous avez des objectifs particuliers? Quel était... Bon, t'as un petit peu répondu, forcément, parce que tu m'as dit que c'était un petit peu comme un complément, une œuvre, non, c'est pas ça, mais en tout cas un complément de l'album en tant que tel. Vraiment un projet à part entière. Ouais. Est-ce que vous aviez d'autres visions ou d'autres objectifs par rapport à jour de sortie?
Bah, en fait, c'est un complément oui et non. C'est, je dirais plus que complément, c'est une émission d'accompagnement. C'est pas exactement pareil. Ça peut pas être complémentaire dans le sens où ce n'est pas la création de l'artiste,
oui,
mais
bien sûr.
C'est plutôt en accompagnement d'une œuvre musicale. Et du coup, c'est une façon de peut-être mieux comprendre le processus créatif, encore une fois, d'un artiste au moment de cet album-là. Après, pour ce qui est des objectifs, l'intérêt, c'est de développer une offre éditoriale assez vaste sur plusieurs thématiques. Pour ma part, je travaille sur le rap. C'est un genre sur lequel aujourd'hui je suis considérée comme étant experte parce que ça fait plus de 15 ans. Et comme j'ai un profil de journaliste et que j'ai fait de la radio, que j'étais animatrice, que j'ai fait du direct, enfin j'ai fait beaucoup de choses dans cet univers-là, on a assez vite pensé à comment créer un contenu qui ferait sens par rapport à mon travail d'éditrice sur le rap chez Deezer.
Ah, c'est super intéressant. Et justement, tu vois, en écoutant forcément les interviews que tu fais, le podcast, comment t'as animé le podcast, etc., je me suis demandé, est-ce que toi, t'as déjà remarqué que les rappeurs, enfin les artistes en général, avaient plus tendance, on va dire, à se livrer de manière peut-être plus intime sur un podcast que sur, on va dire, des... je sais pas, sur Combini ou sur, peu importe, des radios mainstream, on va dire. Est-ce que tu as déjà fait cette expérience-là d'avoir des infos un petit peu plus intimes, entre guillemets?
Je dirais pas ça comme ça. Après, je vois ce que tu veux dire, mais déjà, jour de sortie, c'est un podcast audio et vidéo. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par dire podcast vidéo. Pour la petite histoire, c'est un podcast qu'on a lancé en audio pendant le tout premier confinement. Et à ce moment-là, en fait, j'ai réalisé ce podcast depuis chez moi avec mon mari qui enregistrait. Donc, c'était assez épique avec mon propre matériel, donc ma table de mixage, mon agra, mon micro qui était plus un micro de reportage. Comme quoi, en fait, se lancer, c'est... Et encore là, je parle... J'avais quand même beaucoup de matériel, mais on peut vraiment faire un podcast avec un téléphone portable aujourd'hui.
C'est ça.
Il faut se lancer quand on a l'idée et après, la répétition est une forme de changement, donc on peut faire évoluer les choses et puis on peut aussi s'équiper un peu plus au fil du temps. Donc ça, c'est le premier truc, mais je dirais que c'est pas forcément parce que venant de la vidéo, parce que je suis vraiment journaliste reporter d'images de formation, donc j'ai fait beaucoup de reportages avec une caméra. C'est vrai que la caméra peut stresser l'artiste, que ça peut créer une distanciation avec l'interlocuteur que tu peux avoir. Mais je pense que le travail, en tout cas que moi j'ai toujours essayé de faire avec les artistes, c'est de les mettre en confiance. Et en fait, c'est une conversation plus qu'une interview. Donc, toi, tu as écouté, mais si tu regardes, jour de sortie, j'ai pas de feuille, j'ai pas de téléphone, je fais tout de tête. Je parle avec des artistes comme je te parle là. Donc, en gros, moi, j'apprends tout ce que je dois apprendre, et j'arrive et je parle. Et après, j'ai pour habitude de dire aussi que je ne suis pas là pour demander des choses aux gens. Je suis juste là pour entendre leurs paroles et l'accompagner. Ce qui veut dire que même si j'ai prévu des choses, les trois quarts du temps, en fait, je sors de ce que j'ai prévu parce que je laisse la personne me guider. Et du coup, chaque jour a sa discussion, son moment. Et si je sens que quelqu'un veut plus parler de... genre donner des informations type écrire comme ça, je dis telle ligne et tout, je vais les suivre dans cette dynamique-là. Ce qui s'est passé avec ZKR, un rappeur de Roubaix que j'ai rencontré, le podcast va sortir, je pense, au moment après ta conversation, ce sera déjà, enfin notre conversation, ce sera peut-être déjà dispo. Ou c'est ce qui fait que sur Jazzy Baz, on est sur des réflexions qui sont peut-être plus philosophiques. Mmh. Ou qu'avec Orelsan, ça va dans le sens d'un échange, encore une fois. C'est vraiment ça. Donc, pour moi, c'est plus ça qui est important. Et c'est ce qui fait toute la différence. C'est-à-dire que, en vrai, je n'ai pas de questions. Donc, et j'ai commencé mes toutes premières interviews en ayant des questions et des feuilles. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout un truc...
Ouais,
voilà.
En tout cas, pour
moi, c'est pas comme ça. Après, je remets pas du tout en question, tu vois, les méthodes des uns et des autres. Hein, les méthodologies sont différentes. Je pense que, tu vois, ce qui compte, c'est la quête et c'est aussi là où tu arrives à la fin. Et donc voilà, je pense qu'il y a on a tous des méthodes très différentes.
Et justement, si tu devais donner, alors tu l'as un petit peu donné, j'ai l'impression, mais si tu devais donner un conseil à, admettons, un podcasteur qui veut faire des interviews, quel serait selon toi le meilleur conseil pour faire une interview réussie?
Je pense que je dirais de développer sa particularité et de la connaître déjà. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont être très techniques et ça va être ça leur spécialité. Ils vont être hyper sur les dates, être en capacité de te dire oui, tel événement, etc. Donc c'est plutôt... souvent des profils assez pragmatiques. Et puis, tu vas avoir des gens qui vont plus rechercher l'émotion et qui vont se dire, c'est pas grave s'il y a des divagations ou si on se laisse aller à des causeries ou voire des rêveries parce que, en fait, c'est ce qui va un peu lever le voile sur ce que tu as envie d'apprendre en tant qu'intervieweur. Donc, je dirais que le premier truc, c'est d'abord d'apprendre à bien se connaître. Et de cultiver sa différence. Ça peut paraître un peu bizarre, on dirait que je suis en train de parler de développement personnel ou quoi, mais en vrai, je pars du principe que c'est ce qui fait, en fait, la particularité de, je pense, tes podcasts préférés. Si tu regardes, tu vas peut-être te dire, j'adore écouter tel podcasteur ou tel intervieweur parce que il est hyper sur les faits, ou tel mec parce qu'il est trop bien quand il s'agit de raconter une histoire, ou lui parce qu'il est hyper vif.
Ouais, tout à fait. Oui, je vois. Et souvent, tu vois, ce que je conseille, et tu l'as un petit peu dit juste avant, ce que je conseille quand on fait une interview, c'est plus d'écouter la personne qu'on a en face de nous plutôt qu'être concentré sur ses questions. Bon, moi, je vais pas mentir, j'ai toujours des questions, tu vois, pour relancer la conversation. Mais voilà, c'est ça, il faut que ce soit une conversation et pas juste une interview où, voilà, j'écoute pas spécialement ce que tu me dis.
Ouais.
Est-ce qu'il y a une conversation, une discussion que tu as eue sur le podcast, sur jour de sortie avec un artiste particulier et qui t'a marqué? Est-ce qu'il y a une anecdote que tu racontes souvent, ou est-ce qu'il y a une discussion que tu te remémores de temps en temps parce que peut-être qu'elle a été particulièrement, voilà, intime, ou j'en sais rien. Est-ce qu'il y a un épisode ou une conversation qui t'a marqué plus qu'une autre particulièrement?
Franchement, c'est super dur comme question, parce que je fais vraiment partie de cette école qui n'a pas de mieux, mais beaucoup de beaucoup. Et donc, je dirais que chacune des rencontres et chaque moment a été assez particulier. Et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir rencontrer des artistes, de discuter avec eux, que ces artistes nous fassent confiance pour qu'on puisse essayer de comprendre un peu comment ça se passe dans l'intérieur de leur tête. Donc, c'est difficile de choisir. Et puis, comme je dis souvent, choisir, c'est renoncer. Donc, j'ai pas trop envie. Après, je dirais qu'il y a peut-être des paliers, c'est-à-dire que la toute première interview de jour de sortie pendant le confinement, avec mon matos à la maison, c'était un artiste que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Dahuzi. Et c'était un super moment. Et il avait fallu s'appeler sur Facebook, voilà, s'enregistrer, tout ça. Puis c'était une période un peu compliquée. Donc il me semble que lui, il était en voiture à ce moment-là. Et on avait réussi à faire quelque chose. Sacré moment d'ailleurs.
Ouais,
après, je dirais que il y avait en termes de cap, premier podcast vidéo aussi, en plus de l'audio, c'est vraiment fin de confinement, et c'est avec Aya Nakamura qui est une artiste dont je suis hyper admirative par rapport à son parcours, tout ce qu'elle a réussi à faire, et donc j'aime beaucoup la musique, et qui avait accepté d'être un peu la première à être filmé dans le cadre de jours de sortie, alors qu'on n'avait pas de pilote ou quoi que ce soit. Et c'était au moment où elle allait sortir Nakamura, donc Aya, pardon. Donc elle était déjà une superstar.
Ouais.
Donc c'était pas le tu vois. Donc on a eu la chance.
C'était une belle première fois là pour le coup.
C'était une très très belle première fois. Après, avec Aya, ça fait longtemps qu'on se connaît, enfin en tant que bien sûr journaliste, c'est que je l'ai croisée sur des tournages. Alors je dis journaliste parce que je suis journaliste de formation. Aujourd'hui, je me considère plus comme étant animatrice, mais tout ça pour dire que voilà. Et puis après, il y a plein de très beaux moments. On a vraiment la chance de pouvoir avoir plein d'artistes assez formidables, que ce soit des têtes d'affiche ou des artistes un peu plus en développement. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est que chaque conversation est j'ai envie de dire, jamais comme la suivante. Et après, c'est comme ça, en fait. C'est juste... ouais, c'est des moments.
Ouais, non, mais c'est vrai. Et c'est vrai que quand on écoute plusieurs épisodes à la suite... tout à l'heure, tu mentionnais le fait que tu n'avais pas de script sous les yeux. Et c'est vrai que quand on y réfléchit avec le recul, c'est vrai qu'on se dit, mais oui, en fait, il n'y a pas une interview qui se ressemble particulièrement. Il y a un peu, c'est un peu le même rythme, etc., à la limite. Mais c'est vrai que c'est très naturel et ça fait vraiment plus conversation qu'autre chose. Donc, c'est super intéressant de ce point de vue-là.
Ouais. Après, moi, c'est un truc que j'ai toujours travaillé côté interview. C'est-à-dire que dans mes, même par le passé, quand j'ai commencé en tant que journaliste, assez vite, j'ai voulu faire des conversations. Donc, même quand j'écrivais des papiers, parce que j'ai écrit un peu pour des magazines indés ou des choses comme ça, voilà, je voulais que ça s'appelle « conversation » parce que c'était une conversation. Et donc, il fallait que c'est cette forme conversationnelle parce que, je sais pas, en fait, moi, par exemple, J'aime la poésie, mais j'ai toujours aimé la poésie en vers libre. Connaître les formes, c'est important. Avoir les structures, savoir qu'il y a des alexandrins, etc., c'est cool. Mais ce que je trouve encore plus intéressant, c'est à partir du moment où on maîtrise assez les codes pour pouvoir s'en démarquer. Et je pense que ça a toujours été ma réflexion autour de l'exercice d'interview. Parce que oui, c'est une conversation, mais avec un travail qui est quand même journalistique. Et ça, c'est important aussi, parce qu'il y a toute la vérification avant. Et que je suis quelqu'un d'assez pointilleux sur ça. C'est-à-dire que pour chaque interview, je demande à avoir ce qu'on appelle les label copies. Donc, c'est vraiment avoir tu vois, toutes les informations sur le disque. Je regarde tout dans les détails. J'essaye de retenir tel ou tel OK sur tel site, il y a tel instrument, tel truc, tel machin. Donc c'est vraiment un truc. Parle avec des gens pour qu'ils me parlent de l'album aussi, de l'entourage de l'artiste.
C'est un vrai travail d'investigation, tu sais, à la Élise Lucet limite.
Bah, après en soi, quand tu es journaliste de formation, on t'a appris certaines règles, le truc de vérifier tes sources, de travailler toujours à partir d'une info vérifiée, même si on peut pas vérifier ensuite la parole de quelqu'un. Je dis ça dans le sens où, si admettons ensuite un artiste pendant une interview me relate une anecdote, eh bien c'est son histoire à lui, c'est sa part de l'histoire. Et comme on dit, il y a toujours plusieurs versions d'une histoire parce que on les raconte et on les vit différemment, et parfois même notre mémoire sélectionne des choses qui sont très différentes. Mais tout ça pour dire que ça repose sur un truc assez méthodique et organisé. Pour pouvoir devenir quelque chose de très libre à la fin.
Ouais, c'est ça, c'est quand même pas libre à 100%, au sens où il y a quand même un gros travail en amont, et c'est quand même assez intéressant de le souligner, quoi. Et voilà pour cette première partie. Si vous souhaitez suivre Narjes, vous avez le lien de son Instagram et de son podcast en description d'épisode. Si vous avez envie de soutenir Pourquoi pas toi, je vous laisse mettre une note au podcast sur Spotify ou Apple Podcast. Et voilà, merci d'avance et à très vite. Salut!